130 livres, chronique du 14 août 2019, le cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc. C'est une règle implicite des vacances, sauf à être un néerlandais à la caravane bourrée de produits de chez lui. Consommer local et s'esbaudir à l'envi sur la qualité de ce que l'on a déniché. Ainsi, au Pays Basque, il est de bon ton d'emmagasiner linge de maison et chapelet de piment d'Espelette. Lire local est une démarche à rien plus rare, voire risquée, lorsque l'on ne connaît rien de l'écrivain en question et que le genre concerné vous rebute a priori. Seulement voilà, comme évoqué précédemment, j'ai grande confiance en la librairie de la rue en pente, 6 à Bayonne, au point de lui avoir acheté un authentique roman d'aventure aéro-basque lors de mon dernier passage. La bête pèse 627 pages et s'intitule « Le cartographe des Indes boréales » d'Olivier Truc. Notez que je ne juge pas le roman d'aventure comme de la came pour écolier ou bibliophile encarté chez France Loisirs. Dumas, Twain, Stevenson et Melville sont des géants, et basta. Il en va juste de mon manque d'intérêt pour lui comme des réticences de certains pour le film en costume, un réflexe qui ne se commente pas. Ne me jugez pas. Que diable allais-je donc faire dans ce baleinier ? Car Isco de Echeverri, protagoniste du roman, se verrait bien devenir harponneur de cétacés comme son père avant lui. Nous sommes en 1628, et les amitiés de ce même paternel valent à Isco d'être introduit à 13 ans à la cour royale de Suède, allié de la France contre l'ennemi prussien. Il assiste au baptême du formidable Vasa, ainsi qu'à son naufrage immédiat et stupéfiant en rade de Stockholm. Après avoir observé de loin le meurtre de son mari sur le pont du vaisseau de guerre, Isco sauve une femme étrange de la noyade. Elle est aussi enceinte jusqu'aux dents et donne naissance à son enfant à peine sorti des eaux, avant de sembler jeter un sort à Isco. Cette malédiction n'est pas la seule à frapper le jeune Basque, puisque de retour à Saint-Jean-de-Luz, il tombe sous la coupe d'un sbire de Richelieu qui dispose de terribles moyens de pression sur ses parents. Loin de ses rêves de Groenland, Isco est envoyé au Portugal pour y apprendre la cartographie. Il sera espion du royaume de France, chargé de suivre et rapporter les efforts de la Suède pour découvrir et exploiter les richesses de la mystérieuse Laponie. Le périple d'Isco d'Echeverri, ballotté de villes manigances en incarcération au gré des tournants de l'histoire, s'étalera sur 4 générations. Il chassera enfin la baleine, découvrira Lisbonne, Amsterdam, Göteborg, le Spitzberg et les confins des actuelles Norvège et Finlande, habitera quantité de prisons et culs de basse fosse, connaîtra des amours tortueux auprès des 2 filles d'un bienfaiteur suédois, survivra à la plupart de ses enfants et semblera parfois se réapproprier son destin à force de malice et de courage. Extrait. Les remous vifs et sombres de la mer gris anthracite semblaient interdire tout espoir au ciel de venir se reposer à la surface des flots. Les ténèbres marines faisaient front face au ciel d'un bleu limpide. 2 blocs parfaits et inébranlables. Entre ces 2 mondes que rien ne pouvait unir, les montagnes couvertes de neige et d'ombre offraient à l'œil un espoir de conciliation. De la côte de son pays basque natal, Isco ne connaissait que l'affrontement de la mer et du ciel, le choc de 2 géants de force égale que seul parfois venait troubler la vague. Ici, il découvrait une tentative de médiation. Les montagnes, bloquant parfois de fins nuages gris bleutés, s'élevaient comme des vagues immenses et pétrifiées qui venaient s'interposer entre ces 2 ennemis irréconciliables. Ici, contre toute attente, la nature permettait un espoir. Mais Isco contemplera surtout, au long de ses incessants voyages, une Europe déchirée par les guerres de religion, où fanatisme et cynisme politique manipulent et dévoient partout la foi chrétienne, celle des Français catholiques, des Suédois luthériens ou des puissants marchands calvinistes hollandais. Le cas le plus remarquable, véritable fil rouge du roman, en sera l'asservissement du peuple lapon par des Suédois aussi avides des supposées richesses minières de ces montagnes que désireux d'éradiquer ces cultes ancestraux dont certains, horreur suprême, rappellent étrangement la dévotion à Marie de l'Église catholique. Sauf à avoir parfaitement retenu ses cours d'histoire géo de collégien, la lecture de ce cartographe des Indes boréales réapprend quantité de détails captivants sur la façon dont l'Europe du XVIIe siècle façonna le monde entier selon ses besoins et aspirations. L'art de la cartographie y joua un rôle majeur et insoupçonné, d'où l'empressement des puissants à s'assurer les services d'Isco. Extrait. Le cartographe invente la terre qu'il découvre en décidant de ses attributs. La vérité utile à l'homme naît sous sa plume. Stockholm affirmera sa position de capitale lorsque les cartes en décideront et que ces cartes circuleront largement afin que chacun s'en persuade. Le géographe sera le meilleur allié du roi. Connaître l'apparence et les limites d'un territoire convoité, c'est déjà le posséder un peu. Les espions sont les oreilles du monarque. Nous, cartographes, sommes ses yeux. Mais des yeux qui choisissent, qui écartent un détail, en magnifient un autre. On déplace une route, une rivière, et soudain une cité prospère devient un hameau excentré, isolé, prêt à dépérir. Très sage, l'écriture d'Olivier Truc manque parfois d'aspérité, mais elle a le mérite, outre sa précision, de rendre digeste l'ensemble colossal constitué par les 109 chapitres du roman. Foisonnante, les descriptions et intrigues s'enchaînent de façon fluide, et le récit d'aventure préserve sa cohérence, que l'on perde parfois son fil ou que l'on y reste bien accroché. Mais le cœur du roman est bien la maturation en tant qu'homme d'Isco d'Echeverry, confronté aux pires injustices et manipulations, et passionné par la nature du sentiment mystique à force de voir la religion instrumentalisée par les gens de pouvoir et si fermement défendue par ceux qu'ils oppriment. Extrait. Lors des bouts d'étape silencieux, Isco méditait en contemplant les sommets. La ressemblance avec certaines montagnes basques l'avait frappé. Il chercha des parentés entre ce qui défilait sous ses yeux et les reliefs des Pyrénées. Il apprivoisait la terre. En la nommant, il en prenait le contrôle. N'était-ce pas ça l'art du cartographe ? Enfermer la nature insondable et grandiose dans un cadre connu, mesurable, contrôlable, amener la nature au pied du souverain, la dompter. Était-ce aussi cela la foi ? Donner un visage rassurant à des abstractions où l'homme ne peut se perdre. Le cartographe de l'âme. Un prêtre n'est peut-être que cela. Ou tout cela. L'émotion attrape souvent le lecteur dans un dernier tiers sombre et mélancolique, preuve que le cartographe des Indes boréales est plus qu'une somme alerte et plaisante de rebondissements des paysans. Ainsi, le moment où Isco dit la messe à un vieil homme contraint sa vie entière de dissimuler sa foi catholique m'a surpris garde basse. Il ne fut pas le seul. Lisez local, les gars. En ce qui me concerne, ça vaut bien 3 torchons basques et 2 chapelets de piment.